point des besoins et des réalisations de notre université. Et dès le début de cette allocution, je veux souligner quelques faits. D'abord, l'augmentation des crédits alloués à l'éducation nationale, dont le budget actuel de 646 milliards est plus du quadruple de celui de 1950, et qui permet l'accroissement du nombre des professeurs, la création imminente que vous allez enfin arracher aux finances, monsieur le ministre, de postes de maîtres assistants de faculté, si nécessaires pour encadrer et aider nos étudiants. Il y a là un effort qu'il serait injuste de ne pas signaler et qui, s'il se poursuit au même rythme, parviendra peut-être à combler les besoins, ce qui, hélas, n'est pas le cas à l'heure actuelle, force nous est de le constater. L'accroissement numérique des étudiants est tel qu'il nous semble parfois que nous roulons le rocher de Sisyphe. À peine avons-nous fait face difficilement à une situation donnée, que ça n'est une toute différente qui se présente à nous, avec quelques milliers d'étudiants nouveaux, c'est dire que dans ce domaine, l'heure de l'équilibre et du repos n'a pas encore sonné pour nous. Si nous ajoutons que le taux de scolarisation est extrêmement élevé à Paris, nous ne nous étonnerons plus de devoir accueillir près de 80 000 étudiants cette année, chiffre qui sera peut-être doublé dans 10 ans, du fait des classes montantes de forte natalité. Cela dit, venons-en aux travaux en cours. La Halle aux Vins, enfin sortie de terre, voit s'élever d'imposants étages de béton. La brûlerie de café de la rue Guy de la Brosse est remplacée par un vaste édifice où les parfums chimiques vont se substituer aux arômes délicats d'hier. Orsay, où fonctionne une propédeutique, verra s'ouvrir dans 3 mois des amphithéâtres et des travaux pratiques du second cycle. Tous ces travaux font le plus grand honneur à ceux qui en étaient chargés. Rue d'Assas, une première pierre symbolique, a été posée le 30 mai dernier. Je dis symbolique, car une partie de la construction était déjà amorcée, et à la rentrée de 1960, un grand bâtiment sera vraisemblablement mis en service pour le plus grand bonheur de la faculté de droit et des sciences économiques. Bonne nouvelle aussi pour la faculté des lettres et des sciences humaines, si cruellement à l'étroit dans ses locaux actuels. On vient d'acheter l'hôtel des sociétés savantes et l'aménagement de certaines de ces salles a été si rapidement mené qu'une section de la propédeutique y est installée ces jours-ci. Certes, plusieurs étages sont encore utilisés par des sociétés savantes, et il y aurait quelques cruautés, quelques difficultés aussi, à les pousser à la rue. Enfin, j'en donne l'assurance, c'est la dernière fois que vous m'entendez parler au futur de la maison sportive Bullier, qui nous sera livré au cours de cette année scolaire. Quant à l'édifice important, qui sera construit sur un terrain de la place Lucien-Aire, dont de la ville de Paris, toujours si généreuse, et qui abritera les services d'accueil pour étudiants étrangers, notre école supérieure d'interprètes, une vaste salle de lecture et un restaurant, tout porte à croire, foi d'architecte, que les marchés signés le mois dernier pourront être exécutés dans moins de 18 mois à la faculté de pharmacie, où nous pouvons admirer les installations très modernes de la splendide bibliothèque. 3 nouveaux amphithéâtres vont être construits dans les années à venir. À la faculté de médecine, grande dame déjà pourvue, la réforme des études, révolutionnaire autant que rationnelle, va entraîner dans un proche avenir l'accroissement des locaux d'enseignement et une modification de leur emplacement. La semaine prochaine, enfin, Monsieur le ministre inaugurera le restaurant de la rue Mazet, qui qui a si souvent défrayé les conversations estudiantines et les chroniques de la presse. On y servira, j'en suis certain, la nourriture simple, mais bonne, solide et réglée que demandait au XVIIIe siècle mon prédécesseur, le bon abbé Rollin. Et bon abbé Rollin, évitez le divorce entre la connaissance et la sagesse, c'est là le vrai, le difficile problème. Il suppose non seulement la subordination de la science à la conscience, selon la vieille formule de Rabelais, mais la possibilité pour certains esprits privilégiés, sinon de dominer les techniques, quel homme le pourrait aujourd'hui, du moins de réfléchir sur elles, de briser l'isolement orgueilleux et mortel de spécialisation, et de découvrir entre les multiples sciences un dénominateur commun qui satisfasse tout ensemble l'âme et l'entendement et préserve l'inaliénable primauté des forces spirituelles dans l'univers à venir. Belle et grande tâche pour les penseurs et les philosophes de demain.